Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Que ferait-on aujourd'hui si on n'avait plus notre smartphone ou un ordinateur ?
La télé, c'est son ami, c'est horrible.
La cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et ce qu'on pense, va être un déterminant principal.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est voilà, j'ai un fils de 11 ans et je pense qu'il est addict à la télévision.
Oui.
Et notamment aussi aux écrans. Et c'est une grosse problématique.
Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ?
Ce qui se passe, ne serait-ce par exemple que ce matin, j'étais avec lui. Habituellement, quand on lui laisse l'accès à la télé, il allume la télé, il reste devant la télé, il va un peu mode zombie pour déjeuner, toujours devant la télé. Et ce matin, on avait enlevé le câble de la télé et du coup, il était un peu hystérique, il chouinait, il criait, il se révoltait. Il voulait pas venir tout de suite déjeuner et puis après, il a fini par déjeuner, mais il râlait beaucoup, il disait qu'il s'ennuyait tout de suite. Voilà.
Oui.
Par exemple.
Alors, il y a la télé, puis vous disiez d'autres écrans. Quel autre écran ?
Alors après, les autres écrans, moi, pour essayer de le motiver dans ses études, alors je ne sais pas, c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Il y a beaucoup de ses amis qui ont déjà les Switch. Mm-hmm. Donc, j'avais dit, s'il avait des bons résultats à l'école, il pourrait en avoir une à Noël. Mm-hmm. Il a eu des bons résultats, il en a eu une. Après, on a essayé de contrôler, contrôle parental, etc. Mais la problématique aussi, c'est que quand il est dans le jeu, il n'arrive pas à s'interrompre. On lui dit d'arrêter, ça va pas. Si je mets le contrôle parental au bout d'une heure, ça s'arrête. Il n'arrête pas de venir auprès de moi pour me redemander plus de temps. Enfin, il est constamment après moi. Après, il a aussi des petits jeux où il a envie qu'on joue avec lui. Il a envie d'échanger quand même.
Ces petits jeux sont des jeux sur des écrans ou c'est des jeux
c'est
de société
ou
d'autres jeux ?
Sur la Switch. Parce D'accord. qu'en fait, à un moment, j'étais un peu plus à la maison. Un des premiers soirs qu'il rentrait de l'école, il a bien voulu faire un jeu, mais très rapidement, il voulait retourner aux écrans. Au bout de même pas une heure, il voulait retourner aux écrans. À savoir aussi que quand il regarde la télé, il a la télécommande dans la main, il ne la lâche pas.
À partir de quel âge votre fils a commencé à regarder la télévision ?
Je pense qu'il a dû commencer vers les 3 ans.
Mmh. À ce moment-là, est-ce qu'il y avait des règles ? Comment ça se passait ?
Peut-être. On n'a peut-être pas vraiment posé des règles, mais bon, on ne le laissait pas trop longtemps non plus. Après, je vous avouerai, je n'ai jamais regardé le temps qu'il pouvait regarder. Après, je me souviens qu'en maternelle, pour essayer de stimuler les enfants à s'habiller plus vite... La récompense, c'était la télé avant la maternelle. jusque dans mon entourage, on m'a expliqué que, attention, ça c'est dangereux, donc surtout pas. Donc ça, j'ai arrêté, j'ai mis le holà. Et du coup, ben, il se préparait et puis on allait à l'école.
Donc, dans un premier temps, il regardait la télévision le matin pour se préparer.
Et enfin, ensuite, après, vous l'avez enlevé pour oui.
D'accord. Et quand vous l'avez enlevé, comment ça s'est passé?
Ben, il n'était pas content au début, mais après, j'ai réussi à être ferme cette fois-là. Et ça a fonctionné.
Ouais. C'est difficile pour vous d'être ferme, qu'il y ait des règles et de s'y tenir?
Ben, je pense que nous, notre écueil dans notre famille, c'est qu'on n'a peut-être pas supposé les bonnes règles au bon moment. Et que du coup, ben, j'ai pas l'impression qu'il y en ait.
Comment vous gérez quand votre fils, du coup, se met en colère et frustré parce que voilà, l'écran s'arrête?
Ben, ce matin, ben, il pleurait, il me repoussait. Bon, forcément, il me détestait. Il grattait le canapé. Enfin, voilà, il y avait une révolte en lui. Après, il me repoussait, donc bon, j'allais pas trop. Vers la fin, quand il s'est un petit peu calmé, quand il s'est habillé pour partir, bon, j'ai pu le prendre un peu dans les mains pour essayer de le réconforter. Mais bon, de toute manière, je pense qu'il s'en fiche royalement. Tout ce qu'il veut, lui, c'est la télé, son écran.
Qu'est-ce que ça vous fait à vous quand votre fils est comme ça?
Moi, ça, ben, je me sens incapable de trouver la solution toute seule. Je suis plutôt désarmée. Je veux l'aider, surtout que j'ai discuté avec lui et il reconnaît quand même avoir du mal à se séparer de la télé. Alors il minimise forcément parce que voilà, c'est déjà peut-être bien. Je trouve que c'est positif d'un sens qu'il en a conscience, mais ça n'arrête pas. Il peut rester pratiquement des matinées ou des journées devant la télé. Je n'arrive pas à le retirer et quand il y est, si je veux retirer la télé, c'est une bataille, c'est-à-dire il veut pas l'éteindre, je suis obligée de l'éteindre à la télé, j'en arrive à enlever le câble, il me repousse, on se bagarre pratiquement. Enfin, c'est horrible. Et je suis malheureuse.
Ouais, c'est difficile pour à lui vivre parce que pour vous et pour lui.
Je sens qu'il est rentré là-dedans. J'ai vu qu'il y allait, j'ai essayé d'avoir de l'aide, mais voilà, j'ai peut-être pas frappé aux bonnes portes. Je sais pas comment m'adresser et à qui. Parce que moi, mon but, c'est de l'aider à s'en sortir par rapport à ça.
Voilà. Quelle aide vous avez cherchée?
Ben, j'ai cherché de l'aide. Donc, j'ai été sur un centre CMPP pour essayer de leur dire que pour moi, mon fils, voilà, il avait une addiction à la télé, que pour moi, s'il fallait, on enlevait directement la télé. Par contre, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que s'il était autant à la télé, c'est qu'il y avait peut-être un autre souci et qu'il se réfugiait sur la télé et qu'il fallait peut-être pas l'enlever comme ça. Mais résultat, ben, on n'a pas avancé à part des rendez-vous familiaux ou individuels pour mon fils. Et du coup, aujourd'hui, ça n'a pas mené. Et à la limite, à la maison, ça a empiré. Parce que j'ai pas su maintenir un moment de télé. À un moment, on avait quand même l'année dernière inculté 2 heures par week-end. Alors, il regardait n'importe quoi. Après, je lui coupais, donc il a compris qu'il fallait sélectionner les programmes. Et aujourd'hui, je trouve que la difficulté pour nous, les parents, c'est qu'il y a la télé non-stop. Nous, à notre époque, quand on était petits, il y avait des heures, des émissions, et ça se terminait. Aujourd'hui, on a du non-stop, et c'est d'autant plus dur. Pour nous, parents, si on a du mal à les arrêter.
Qu'est-ce qui est difficile pour vous par rapport aux règles et aux cadres? J'entends que vous avez essayé des choses, mais que ça ne tient pas.
Ça ne tient pas. Ben, c'est peut-être aussi un peu notre univers familial, parce que bon, ben, avec son père, on travaille tous les deux. Donc, on rentre assez tard, on est fatigué. Notre fils a toujours été soit en garderie, soit à l'étude après l'école. Donc, il rentre toujours tard. Il est fatigué. Nous, on est fatigués. Donc, c'est vrai qu'on ne lui accorde peut-être pas le temps et l'attention qu'il faudrait. Du coup, ben, il faut préparer à manger, il faut faire les choses. Et du coup, je pense que notre fils a dû se glisser dans ce créneau-là. Et comme c'est un enfant unique aussi, ben, il s'est glissé dans la télé. C'est son ami, c'est horrible. Et son père, en plus, ces derniers temps, ben, il est beaucoup sur son smartphone. C'est-à-dire que si j'arrive à qu'il n'y ait pas la télé pendant le dîner pour les informations, et ben, son père, si à un moment il finit par se fâcher d'impatience, ben, il peut regarder son téléphone. Donc du coup, ça ne montre pas pour moi le bon exemple. Et ça complique aussi les choses, parce que du coup, il y a autre chose qui est renvoyée.
Au sein, avec votre conjoint, comment vous gérez cette question?
Ben, on n'arrive pas à la gérer.
C'est difficile.
C'est compliqué.
Ouais. Ça peut être source de conflits ou de désaccords entre vous.
Ben voilà, c'est-à-dire qu'après, ben si mon conjoint il se fâche, ben il peut se fâcher sur notre fils et puis après il va se fâcher sur moi parce que c'est moi qui ai amené la problématique.
D'accord.
Après, bon, je fais sûrement des écueils aussi. Hein. Je ne suis pas parfaite, loin de là, puisque je n'ai pas réussi à bien élever de ce côté-là mon fils. En plus, ce qui me fait encore plus de peine, c'est que c'est un garçon qui est un gentil garçon. Ce n'est pas un méchant, ce n'est pas un bagarreur. Et ça me fait du mal. Alors moi, j'ai essayé de le sortir sur des activités hors de la maison, parce que je n'y arrivais pas dans la maison. Donc, il fait du sport. Là, cette année, il a fait du théâtre. Il a trouvé ça formidable. J'ai essayé de l'initier aussi à la musique, l'équitation. Enfin, différentes activités pour qu'il ne se coupe pas du social, pour qu'il ait quand même du relationnel et qu'il connaisse du monde aussi.
Vous aviez l'impression que votre enfant se repliait sur lui derrière ses écrans ?
Pas forcément, mais c'est vrai qu'en été, dans la résidence, si des enfants jouent dehors, le mien, il sera peut-être devant la télé. Voilà. Il ne sortira pas forcément. Ce ne sera pas le premier dehors, en tout cas. Il n'a pas cette notion-là. Enfin, après, nous, on ne l'a peut-être pas trop aussi habitué, c'est possible. Parce que bon, ça doit venir aussi un peu de nous, je pense.
Merci Corinne, je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté, on va rejoindre notre expert, le docteur Patrice Huère. Bonjour Patrice Huère, vous êtes psychiatre, psychanalyste, vous êtes spécialisé depuis près de 30 ans dans les actions de prévention, de formation et de soins pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Vous présidez actuellement l'Institut du virtuel Seine-Ouest et vous coordonnez sur le plan national les unités d'hospitalisation pour enfants et adolescents du groupe Clinéa Orpea. Alors, l'utilisation des écrans aujourd'hui chez les enfants et les adolescents est extrêmement discutée, controversée. On entend un peu tout son contraire. Il y a aussi des discours qui sont extrêmement alarmistes et culpabilisants pour les parents qui, comme vient de nous le dire Corinne, savent plus trop comment faire, comment gérer, sachant que voilà, quand même, les écrans font aussi partie de nos vies. Tout d'abord, de quoi on parle quand on parle d'écran ?
Oh bah c'est très vaste comme domaine maintenant, puisque ça va depuis la télévision, comme ça a été évoqué, jusqu'au smartphone, aux tablettes. Donc c'est vraiment... on en trouve partout, dans les poches, dans la maison, dans les usages. On a quitté depuis longtemps le temps où il y avait une télévision dans le salon. Chacun a ses écrans, c'est souvent au pluriel. Et l'adolescent contemporain est en même temps devant son ordinateur, tout en utilisant son smartphone et une tablette à côté. Les usages ont considérablement évolué.
Souvent, on parle des risques liés à l'utilisation de tous ces écrans. Quels sont ces risques ?
Les risques dépendent pas, de mon point de vue, seulement de l'outil, de la machine, de l'objet. Ce serait trop simple. Il suffirait de supprimer ces objets et il n'y aurait plus aucun risque. Non, le risque va dépendre de l'usage qui en est fait. Je peux prendre une comparaison vraiment un peu sommaire. Un marteau, c'est très utile pour enfoncer un clou. Mais si on l'utilise pour taper sur quelqu'un, c'est très dangereux. Donc, c'est pas le marteau qui est dangereux, c'est l'usage qui en est fait. Pour les outils numériques, c'est la même chose.
En tout cas, voilà, on entend beaucoup dans les médias tous les risques qui seraient liés dans ces usages excessifs sur les troubles de l'attention, notamment voilà, des apprentissages, etc.
Oui. Alors, la définition des usages excessifs est là encore très variable. Mais évidemment, parler des risques, je sais que certains en ont fait quasiment leur commerce. Parler des risques, ceci est toujours beaucoup plus d'intérêt que de dire ce qui est utile, ce qui va bien. Et les informations quotidiennes nous livrent plutôt ce qui va mal que ce qui va bien. Donc, il faut qu'on fasse attention à ne pas se laisser non plus tromper par cette version univoque de la réalité. Donc, il y a des risques, effectivement, s'il y a un usage abusif, si ça occupe l'ensemble de la vie, si on regarde les écrans tard, après le dîner, avant de se coucher, quand on est un enfant et un adolescent, que ça rend les lumières bleues, on le sait bien, l'endormissement beaucoup plus difficile, si ça coupe du monde, si ça coupe des relations, alors là, on va dire, oui, il y a un problème. Il y a un problème. Mais ça va être ce type d'usage qui va être problématique beaucoup plus que l'outil lui-même, qui, pour la majorité des jeunes, va être utilisé avec des fonctions socialisation, fonctions ludiques ou pédagogiques, éducatives et autres. Donc, on ne peut pas et on ne peut plus dire ces outils-là sont dangereux. Ils sont en même temps nécessaires et utiles. Mmh. Que ferait-on aujourd'hui si on n'avait plus notre smartphone ou un ordinateur, hein? Donc, ça fait partie du monde contemporain. Et ça a été amplifié, évidemment, par l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, etc., à partir de 1990, grosso modo. Donc là, on a eu vraiment un changement qualitatif important, puisque s'ajouter à l'usage et au visionnage de films, d'émissions, de séries, à la télévision ou sur ces tablettes, les possibilités de communication et d'être en relation avec d'autres.
Bien sûr. Oui, en tout cas, souvent, là, moi, j'entends des parents me dire finalement, moi, j'ai regardé la télévision quand j'étais enfant et je ne suis pas pour autant aujourd'hui idiot bien ou asocial. Donc, ça ramène cette question que vous disiez de l'usage.
Ben oui, on voit quand même l'immense majorité des jeunes qui ne sont ni idiots ni autres et qui regardent leurs écrans régulièrement. Donc, le problème va se poser quand... il y a un rétrécissement des investissements autres. Et quand il n'y a plus rien d'autre qui intéresse, là, il y a un problème. Mais y compris certains jeunes qui vont utiliser un nombre d'heures important, leurs écrans, pour, que, je sais pas, créer des images, fabriquer des scénarios, etc., bah, ils vont en avoir un usage tout à fait créatif et utile pour eux et pour les autres. Ça ne va pas du tout être la même chose que ceux qui sont scotchés et qui sont dans une relation duelle à l'écran, eux et l'écran, et sans que les tiers aient quelque espace que ce soit.
Comment, du coup, les parents, alors là, Corinne, vous nous disiez, voilà, justement, pour vous, trouver cet équilibre de ce juste dosage, comment on peut trouver ce juste dosage?
Il faut d'abord évaluer, c'est la première chose que je conseille, c'est d'évaluer quel type d'usage en est fait par un enfant ou par un adolescent. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il regarde? C'est-à-dire, la première étape, ça va être de s'intéresser à ce qui l'intéresse, avant de juger. Ça ne veut pas dire qu'on sera forcément d'accord, hein, mais on va d'abord essayer de voir mais qu'est-ce qui t'intéresse là dans ce que tu es en train de faire, y compris un jeu vidéo dans lequel il est en train de trucider quantité de pseudo-ennemis virtuels à la minute. Hein. Qu'est-ce qui t'intéresse? Trop souvent, il y a la scénette suivante où un parent passe derrière son adolescent qui est devant son écran en train de jouer à un jeu vidéo et dit « Mais arrête ces conneries, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Tu as des choses plus intéressantes à faire, tu es en train de gâcher ton avenir, etc. » Mais quand je demande à ces parents-là, mais vous êtes allé lui demander ce qu'il trouvait, pourquoi il y reste si longtemps, il y a bien quelque chose quand même, non? Qu'est-ce qui peut vous expliquer, lui, de l'intérêt qu'il y trouve? Ben, bien souvent, non. Donc ça, je crois, c'est quand même la première étape. Et indirectement, on va avoir un accès à ce qui intéresse son enfant aussi. Mmh. Hein, parce que s'il accepte d'en parler, il va nous dire, bah, tiens, moi j'aime bien tel type d'émission, j'aime bien telle série, j'aime bien tel type de jeu vidéo. Ah oui, mais pourquoi? Puis on tire sur le fil. Ben, parce que là, il y a de l'action. Ah oui, mais pourquoi tu aimes l'action? Et où est-ce qu'on peut aussi avoir de l'action par ailleurs? Qu'est-ce que c'est pour toi l'action? Et ainsi, on fait connaissance finalement avec des intérêts qui n'apparaîtraient pas autrement dans la discussion autour des repas, hein, par exemple. Donc là, il y a vraiment, je trouve, un accès possible à ce qui mobilise l'enfant ou l'adolescent qu'il ne faut pas rater. C'est une première étape. On ne va pas s'arrêter ça en disant « Ah, ça t'intéresse, donc c'est formidable, continue. » Hein? Mais au moins qu'on ne rate pas cette étape.
Oui, vraiment, là, vous soulignez cette importance que le parent fasse cette démarche de s'intéresser à ce qui intéresse son enfant.
Eh bien oui, mais oui, comme une manière de faire connaissance aussi avec les intérêts de l'enfant, au-delà de ce qu'on peut voir habituellement dans la vie quotidienne.
Oui. Alors, on parlait des différents types d'écrans par rapport à différents usages et différents âges. Alors là, j'ai en tête les trois âges de Serge Tisseron, 3, 6, 9, 12, qui correspondent à des âges un peu clés du développement de l'enfant. Voilà, comment on peut introduire les écrans dans la vie de l'enfant et en fonction de son âge?
Oui, c'est effectivement, ça avait été établi, ça a été formalisé comme ça par Serge Tisseron, mais c'est avantageux parce que ça donne un point de repère à des parents qui n'en ont pas beaucoup. Mais ce point de repère ne doit pas non plus être une sorte d'autorité absolue. Vous voyez, il y a des parents qui vont être catastrophés parce que leur enfant de 2 ans aura regardé une petite chansonnette ou un petit dessin animé de 2 minutes sur une tablette. Bah non, il n'y a pas de problème. Mmh. Ils étaient avec lui, ils lui ont parlé, ils lui ont expliqué ce qui se passait. Ils étaient là comme médiateurs, comme mise en parole de ce qui se passe. Il n'y a aucun problème. Ils vont dire, oh là là, mon enfant est fichu, il a regardé 3 minutes la tablette avant 3 ans. Donc, il faut faire attention aux excès dans l'autre sens.
Oui, d'ailleurs, là, ça m'évoque des parents qui me disent, bah, mon enfant, évidemment, le parent est tout le temps avec son smartphone, donc ça intéresse l'enfant. Il va regarder des photos, ou dès 2 ans, va vouloir prendre des photos, regarder les photos. Mais que là, ça peut être aussi un outil vraiment de médiation, de parler des souvenirs ou des choses qui ont été prises en photo. Et c'est pas forcément néfaste.
Non, mais à condition, vous venez de le pointer, c'est que c'est pas l'écran et l'enfant, c'est l'écran entre l'enfant et le parent. C'est autre chose. L'écran devient une médiation, comme un livre peut l'être dans d'autres circonstances, on espère que ça continue, ou une histoire qu'on raconte, ou une berceuse qu'on chante. Il y a quelque chose entre le parent et le petit. Donc là, on n'a pas de problème, pas des heures, bien sûr. Mais par contre, la télévision babysitter, là, c'est un autre problème. Ou le petit bébé qui essaye désespérément d'attirer l'attention de ses parents, et lesquels parents sont devant leur smartphone en permanence. Mmh. Et quand il fait ses premiers pas, ben, au lieu de voir le sourire et les compliments de ses parents, il voit un smartphone qui le film. Alors c'est bien intentionné, mais c'est pas ça dont le petit a besoin pour grandir. Mmh. Il va avoir besoin de la relation avec un adulte, quitte à ce qu'il y ait des intermédiaires à certains moments. Mmh. Donc ça, c'est pour les tout-petits.
Ouais.
Après, bah, ça va être une éducation qui n'est pas si simple aujourd'hui pour les parents à l'usage progressif de ces outils, puisque un enfant qui, en grandissant, n'aurait pas connaissance de ces outils risque d'être très en difficulté aujourd'hui et demain. Mmh. Donc, on a aussi à l'accompagner, il y a les premiers pas physiques, mais il y a aussi les premiers pas dans l'usage des écrans. Et effectivement, l'exemple parental, là, va être très déterminant. Hein. Vous racontiez comment, si on dit « ne fais pas ça » et qu'on le fait, ça ne marche pas bien. Quoi, hein. Comme les parents qui disent « travail, c'est important pour ton avenir » et qui, le soir, quand ils rentrent du travail, disent « vivement les vacances ». Alors l'enfant, il se dit « mais alors qu'est-ce qui est important ? C'est les vacances ou c'est le travail ?» hein. Voilà. Donc, la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et ce qu'on pense, va être un déterminant principal.
Dans cette introduction voilà, progressive et dans l'accompagnement qu'on peut faire des enfants, on parlait là du smartphone chez les tout-petits, alors la télévision, les films, aujourd'hui, il y a un choix débordant.
Ce qui est une chance.
Et en effet, il y a des choses extrêmement belles et extrêmement qualitatives, hein, d'ailleurs.
Oui, oui.
Comment les parents peuvent justement choisir ? Parce qu'on parle peu de la question du contenu. Mmh. On parle souvent de la fréquence, du temps, mais peu de cette question du contenu.
Ah oui,
et que le cinéma, c'est un art aussi.
Donc bien sûr. Mais comment choisissaient-ils les chansons qu'ils chantaient à leurs enfants ? Comment choisissaient-ils les livres qu'ils lui présentaient progressivement en fonction de leurs propres connaissances, leurs propres intérêts, etc. C'est-à-dire une manière indirecte de transmettre aussi quelque chose de soi à travers ses choix. Donc ça, chez le tout petit, c'est ce qui se passe très naturellement. Les parents vont lui présenter des objets, des jouets, des livres, des musiques qui soit leur rappellent des souvenirs d'enfance, soit leur paraissent vraiment des moyens d'être en bonne relation avec leur enfant. Donc c'est la même chose là. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent.
Corinne, est-ce que vous avez choisi ce que regarde votre enfant ? Est-ce que dès tout petit et encore aujourd'hui, est-ce que vous, voilà, vous regardez avec lui ce qu'il regarde ?
Alors, tout petit, oui, on choisissait. On essayait de trouver des belles histoires, quelque chose de doux et voilà, de non-violent dans la mesure du possible. Aujourd'hui, quand bon, en fait, il regarde la télé, mais il peut regarder... Après, c'est vrai, ça me parlait ce que vous racontiez, parce que effectivement, il est devant l'écran en continu, et au lieu d'essayer de savoir pourquoi il regarde tel ou tel dessin animé ou telle émission, je suis là, je dis mais arrête avec la télé, parce que ça m'agace et je sais pas. Donc effectivement, je casse ce lien. Aujourd'hui, il regarde un peu des dessins animés, enfin des choses des fois que moi je trouve absurdes, et lui, il continue.
Oui, donc en tant que parent, trouver de l'intérêt à ce que regardent nos enfants, c'est pas forcément facile.
On va pas forcément être intéressé. Par ce qui les intéresse. Mais au moins, on aura un peu mieux découvert ce qui l'intéressait. S'il y a des arguments, s'il n'y en a aucun, alors là, c'est n'importe quoi. Ça va être simplement la recherche d'une excitation visuelle et auditive, et indépendamment d'un contenu. Mais ça peut se réorienter aussi. Et puis, il y a des possibilités à ce moment-là d'engager une discussion là-dessus.
Bien sûr. Vous disiez, Corinne, là, à Noël, votre fils de 11 ans a eu une console. Oui. Voilà, la question des jeux vidéo. Alors, je sais que c'est une question que vous connaissez bien, puisque vous utilisez aussi les jeux vidéo dans les soins des adolescents, dans les soins psychiques pour les adolescents. Alors, qu'en est-il de ces fameux jeux vidéo qui ne sont pas si forcément mauvais, au contraire, qui peuvent
aussi
être...
Non, mais là encore, ça va dépendre quand, comment ils sont utilisés, dans quelle visée. Il y a aussi, plus l'enfant va grandir, et vers 11 ans, 12 ans, au collège, j'imagine, l'entrée au collège...
L'année prochaine,
ben là, il y a un conformisme de groupe aussi très important. Donc, si tous les copains disent « Ah, tu ne connais pas tel jeu », ben, on va forcément chercher à le connaître. Hein. On peut apparaître marginal. Donc, il y a un aspect groupal, une sorte de culture générationnelle partagée, comme chaque génération en a connu avec autre chose, avec telle chanson, tel film, telle manière de se vêtir, tout ça, ça faisait partie des manières de s'identifier comme appartenant à une certaine génération. Bah, pour les enfants et adolescents d'aujourd'hui, c'est pareil. Donc, au niveau des jeux vidéo, il y aura une partie des choix, entre guillemets, qui va être largement induite par l'effet groupal. Mmh. Et puis, il y a des choix personnels. Il y en a qui auront plus d'intérêt pour les matchs de foot virtuels, d'autres les courses de voitures, et d'autres, au contraire, des évocations plus poétiques. Donc, là encore, on va avoir toute une gamme de possibles. Ça va être intéressant parce que c'est une manière de voir, en dehors des effets groupaux, vers quoi l'adolescent penche, qu'est-ce qui l'intéresse, à quoi il est sensible. Hein. Mmh. Comme il peut être sensible à telle ou telle musique plutôt qu'à telle autre.
Alors souvent la question des jeux violents, justement, des jeux de guerre, de bagarre, etc., sont dénoncés ou critiqués.
Non, moi je trouve que ça, là encore, il faut faire attention au malentendu, c'est-à-dire de ne pas prendre les choses pour une donnée au premier degré. Quoi, hein. Je pense à un père qui m'a raconté, il passait derrière l'écran, il voit son fils qui est en train de trucider, il y a du sang qui gicle partout, virtuellement, dans des scènes où il s'agit d'abattre le plus possible d'ennemis. Et il dit, mais c'est fou, j'ai regardé ça une minute, là tu viens d'en abattre 10, du sang qui gicle partout, mais tu te rends compte un peu ce que tu es en train de faire? Et son enfant se tourne vers lui, il a l'air totalement sidéré, en disant « Mais attends papa, tu sais que c'est pas pour de vrai quand même hein ?» Donc là, cette confusion que beaucoup d'adultes continuent de faire entre virtuel et réalité, ne pas pouvoir concevoir qu'il y a un aspect ludique et que la plupart des enfants et des adolescents ne s'y trompent pas. Comme disent les petits-enfants, on dirait que c'est pas pour de vrai, etc.
C'est pour de faux,
ouais. Et eux, ils savent bien. Et combien d'adultes, je vois, qui prennent vraiment les images pour réalité. Et là, l'enfant est sidéré, quoi.
Après, est-ce que aussi il peut y avoir besoin, à certains âges, de finalement sublimer aussi les pulsions agressives que tout à chacun on a en
bien
nous
sûr,
et que c'est une manière aussi de le faire qui est plutôt adaptée plutôt que de
bien
le faire
sûr.
Dans la réalité.
Bien, bien sûr, c'est une manière de faire avec ces pensées agressives et de voir comment elles peuvent prendre forme de manière virtuelle, ne sachant pas trop qu'en faire par ailleurs. Donc ça, bien sûr. Mais là encore, on voit qu'il va y avoir une frontière qui va être une frontière importante à délimiter entre celles et ceux pour lesquels il y a une capacité de jeu dont ils disposent, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas confondre l'écran et la réalité, les images sur l'écran et la réalité, et celles et ceux pour lesquels il y a confusion, et qui n'ont pas cette possibilité de décoller des images, les prenant finalement quasiment pour réalité, confondant après dans la vie réelle ce qu'ils ont vu et ce qu'ils peuvent faire.
Donc quand il y a confusion, c'est là où il va y avoir nécessité
y
et de soins.
Quand il y a confusion entre le jeu et la réalité, qu'on ne peut plus démêler ce qui serait virtuel ou ce qui serait réel, et d'autre part, quand il y a des investissements quasi exclusifs de ce type de support, au détriment de tout le reste, des relations avec les autres, des investissements scolaires, sportifs, culturels, que plus rien n'a d'intérêt en dehors de ça.
Ok. Après la question des jeux vidéo au collège, il y a la question d'Internet, des réseaux sociaux. Alors, vous nous disiez accompagner. Alors là, voilà. Comment un parent peut accompagner la découverte d'Internet? Je sais que maintenant, ça fait partie des programmes scolaires, dès le primaire d'ailleurs. Comment gérer cette question d'Internet qui amène aussi la question des réseaux sociaux?
Bien sûr. Mais pendant très longtemps, les parents qui n'avaient pas été confrontés à tout cela dans leur propre jeunesse se disaient « Ouh, je ne veux pas lui parler de tout ça, les images violentes, les images pornographiques, les risques sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la peine, ça va lui donner des idées, j'attends qu'il soit plus âgé. Hein. » Comme pouvait dire « Moi, je n'ai pas parlé non plus de l'alcool et autres, parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air de le concerner, donc je n'en parle pas. » On attendait que la question se pose pour en parler. Aujourd'hui, le conseil qu'on peut donner aux parents, c'est que c'est un apprentissage progressif, comme la marche, comme la parole, comme tout le reste. C'est-à-dire que ça fait partie de la vie, c'est des données auxquelles ils assistent depuis qu'ils sont bébés. Ils voient ça. Comment peuvent-ils y comprendre quelque chose? Comment sont-ils accompagnés pour pouvoir en avoir par la suite un usage qui n'empêchera pas la confrontation à des questions nouvelles et problématiques d'ailleurs, mais au moins, ce ne sera pas un scoop, quelque chose qui arrivera comme ça, à quoi ils n'avaient jamais été préparés. Et on leur avait jamais dit que, au hasard d'un clic, malgré les dispositifs de contrôle parentaux, qui sont toujours utiles mais pas suffisants, et bien, malgré cela, ils peuvent très bien être confrontés à des images terribles de violence, de pornographie et autres. Comment peuvent-ils y être préparés? Non pas en les faisant visionner ça quand ils sont enfants, bien évidemment, mais en leur disant qu'il va nécessairement, et je souligne le nécessairement, arriver un jour où, sans forcément l'avoir choisi, ils vont être confrontés à ce genre d'image. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Comme on va, en tant que parents, leur dire, bon, un jour ou l'autre, il y a des grands ou d'autres qui vont te proposer de fumer du shit ou qui vont te proposer un verre d'alcool en disant, allez, t'es plus un bébé, vas-y, etc. Comment vont-ils s'en débrouiller s'ils n'ont pas été préparés à ça? Donc c'est cette préparation par les parents de la rencontre avec des situations problématiques. On n'est plus dans la période des lignes Maginot où il suffisait d'établir toutes sortes de remparts, d'interdits, etc., en disant « au moins comme ça je suis tranquille, il n'y a pas de risque ». Non, le risque il va être ailleurs. Les grands du collège qui sont en 5e, 4e vont frimer dès la rentrée pour montrer sur leur smartphone des images violentes ou pornographiques aux petits qui arrivent du primaire pour montrer comment eux sont des grands. Donc, ils vont chez un copain, une copine, un jour, un frère, une sœur plus grand va aussi se vanter un peu. Voilà. Donc, ils vont être confrontés à ça. Comment on les y prépare?
Donc, c'est important d'anticiper finalement toutes ces questions-là et petit à petit.
Si un jour ça t'arrive, tu m'en parles. Plutôt que le jeune se dise « Ouh là, j'ai dû voir un truc qu'il ne fallait pas voir. Manifestement, je me tais. Hein, » Et se tait et s'enferme et enquiste tout ça. Donc, c'est vraiment, tu n'hésites pas, tu m'en parles. S'il y a des signes de harcèlement, des choses comme ça, si on t'envoie des propos désagréables ou on utilise des images, tout ça, tu m'en parles plutôt que de fermer les portes en disant « Ouh là, là, je vais me faire engueuler. Hein. »
Là, vous amenez la question du coup des réseaux sociaux. C'est vrai que beaucoup de parents s'interrogent sur ces réseaux sociaux, comment amener les jeunes ados et ados aussi à se protéger. Vous parliez du cyberharcèlement, de tous ces risques.
Il y a des parents qui inscrivent leur bébé sur les réseaux sociaux, qui lui créent un compte fœtal, on pourrait quasiment dire, avec la première échographie, par exemple. Vous voyez. Donc là, il y a un rôle des parents aussi. Il ne faudra pas s'étonner par la suite que cet enfant, cet ancien fœtus ayant grandi, trouve ça tout à fait naturel, parce que ses parents lui ont montré l'exemple depuis toujours. Donc, mais là encore, on ne l'empêchera pas, même s'il a un compte Facebook officiel pour les parents, d'ouvrir un compte sur d'autres, Instagram, Snapchat et autres, pour pouvoir être un peu à l'écart du regard parental. On ne l'empêchera pas, même si tout est fait matériellement pour que ce ne soit pas possible. Ils franchiront les obstacles. Ils sont beaucoup
plus doués. C'est comme le contrôle parental, c'est assez facile finalement de les détourner. En tout cas, les enfants sont beaucoup plus ingénieux que leurs parents.
Bien sûr. Alors ça rassure les parents. C'est utile, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on se dise ça. Donc les réseaux sociaux, ils y auront accès. Donc de la même manière que pour les autres problèmes qui peuvent se poser, comment les a-t-on préparés à un usage, on pourrait dire, utile des réseaux sociaux? Parce que c'est aussi potentiellement utile. Moi, je vois des jeunes qui étaient très isolés, très timides, entre guillemets, etc., qui, avec les réseaux sociaux, peuvent traverser un peu l'adolescence en ayant moins le sentiment d'être seul. Et le sentiment quand même d'appartenir à une génération et de partager un certain nombre de choses. Oui.
Nous, on a décidé de les supprimer totalement.
Et maintenant, je demande volontiers pour lire. Et aussi, on fait des jeux de société en famille, on découvre d'autres choses. Mais après, moi, je trouve que les supprimer totalement, c'est un peu radical.
Est-ce que cependant il doit y avoir des limites?
Bien sûr, comme pour tout. Ça, c'est aussi un malentendu que de penser que ces limites, elles interviennent quand il y a des problèmes, et après 10, 15, 20 ans. Non, les limites, c'est le tout petit. Je prends l'exemple d'un petit de 2 ans ou 1 an et demi qui commence à marcher, qui trotte dans l'appartement et qui va à la porte d'entrée de la cuisine et qui aperçoit au fond de la cuisine un flacon très coloré et très attractif. Il a envie d'y aller. Il y a le parent qui est derrière, qui veille au grain. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce parent? Parce qu'il se dit, oula, je me souviens, zut, j'ai oublié de ranger un flacon de produit très toxique. Qu'est-ce que je fais? Je vais caricaturer. Il y a des parents qui vont dire, je l'attrape par la peau du cou, je lui donne une bonne fessée, je l'envoie dans sa chambre sans dire un mot. Alors là, la plupart des parents disent « Non, on ne fait pas comme ça quand même. Hein. » Bon. Puis il y a d'autres qui ont mal lu Françoise Dolto, qui vont dire « Je parle, j'explique. » Donc je t'explique, c'est un flacon qui contient un produit très dangereux à base de telle ou telle substance. On peut avoir des dégâts hépatiques très graves, on peut même en mourir. Si on... Donc maintenant je t'ai informé, je te respecte trop, c'est à toi de décider ce que tu veux faire. Ah ben non, disent les parents quand même, là, faut pas exagérer. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, on va intervenir et on va limiter les possibilités d'accès si jamais l'enfant continue de s'en rapprocher. Et pourquoi le fait-on ? Si ce n'est pour le protéger. Et parce qu'on tient à lui. Si on se fiche de son enfant, on le laisse faire n'importe quoi. Et on le laissera aller utiliser le produit toxique. Ce sera la même chose pour l'alcool, pour le cannabis, pour les écrans, pour les réseaux sociaux. Si on s'en fiche, on le laisse faire. Hein. Si on s'en fiche pas, on va le limiter. Mais on va le limiter par intérêt pour lui. Et ça, c'est quand même très différent de le limiter par jalousie, parce que ça nous dérange, par caprice, par sadisme, etc. C'est à chaque fois qu'on estime, en tant que parent, et on a cette responsabilité, que ce n'est pas un dosage d'usage qui est correct pour son développement.
Alors justement, hein, Corinne, vous disiez toutes ces difficultés que vous avez à poser ces limites. Comment elles peuvent se poser, ces limites ?
C'est une question qui, en général, je ne réponds évidemment pas à la situation particulière que je ne connais pas, hein, mais c'était en général une question qui s'est posée déjà très tôt. Et qui s'est même posée avant même l'arrivée de l'enfant, en général dans la propre histoire des parents. Hein, comment leurs parents se sont-ils comportés avec eux ? Est-ce qu'ils ont été extrêmement rigides et sévères et on a juré de ne jamais faire comme eux ? Et du coup, on lâche la bride facilement pour surtout pas ressembler à papa ou à maman. Ou est-ce que, au contraire, on a eu une éducation extrêmement laxiste et on a envie de la reproduire en disant « Après tout, ça m'a réussi, pourquoi pas ?» Bref, il y a tout un historique de tout ça. Donc, on peut pas le prendre juste sur un fait donné. Ça s'est construit petit à petit. Alors évidemment, l'idéal, c'est quand ces limites basées sur l'intérêt pour l'enfant, hein, attention, hein, c'est pas les limites caprices ou autres, ont pu se constituer progressivement dans toutes les situations de la vie. Est-ce qu'on va laisser son enfant se rapprocher du vide au bord d'une falaise ? Est-ce qu'on va le laisser engouffrer n'importe quel produit alimentaire sans limitation ? Non, en général. Bon, mais ça va être la même chose, simplement qui va se décliner sur différents sujets au fur et à mesure qu'il grandit.
Et Corinne nous disait, voilà, quand vous arrêtez l'écran de votre fils, pour lui c'est insupportable, c'est une frustration immense, ça suscite des colères, ouais, c'est violent.
C'est violent parce que on est obligé de lui arracher pratiquement la télécommande. On essaye d'éteindre la télé si la télécommande y rallume derrière. On enlève le câble. Après, il revient sur la télé pour rebrancher. Donc, en fait, j'essaie de l'écarter. C'est plus avec moi parce que son père a peut-être une voix plus portée et une colère plus présente. Donc, du coup, il se calme plus vite. Mais moi, ça fait pas grand-chose et il arrive à me bousculer ou à me taper. L'autre fois, il a voulu commencer à me mordre. Bon, il n'a pas enfoncé complètement ses dents, mais il l'a fait quand même. Et moi, je me dis, mais non, tu dois respecter ta mère. Mais enfin bon, de toute manière...
Oui, mais là, c'est terrible. Vous soulignez, il y a le quand on est débordé, ce qui peut arriver, hein, sans être un mauvais parent, par ailleurs, hein, parce qu'il y a des enfants quand même qui sont...
On est démunis.
assez doués pour pousser le bouchon assez loin. C'est le rôle des tiers, c'est-à-dire le père, ou la mère, ça peut être l'inverse. Hein, des grands-parents, un oncle, une tante, je ne sais pas qui, moi, des parents d'amis, qui vont aider à un moment donné à lui dire, attends, ça suffit, là, tu n'as pas le droit de faire ça. Et si ta mère t'interdit ou te dit d'arrêter, c'est pas simplement parce que ça l'énerve, hein, c'est parce qu'elle pense que t'as mieux à faire aussi à certains moments. Donc le tiers va être très important.
Bah, ça, on l'a vu récemment, il y a ma sœur qui est venue une semaine à la maison. Donc là, plus de télé, enfin, c'était très bien réglé. Moi, je me suis dit, super, on va continuer dans cette lancée. Le soir de son départ, mon fils a tout repris comme avant son arrivée. C'est-à-dire qu'il n'a même pas continué à bien se conduire, parce qu'en fait, je pense qu'il a vraiment fait des efforts pendant une semaine. Et nous, on n'a pas réussi à profiter de cette semaine pour remettre les choses. Il a repris sa place de
chef.
Voilà, d'enfant roi. Exactement.
Oui, mais
exactement.
Ça, soit...
C'est terrible.
Soit il a fait des efforts, soit ça l'a soulagé, hein. Parce que c'est quelque chose aussi qu'il faut envisager. C'est que tout à coup, quand on ne peut plus s'arrêter de faire quelque chose et quand ça s'arrête... parce que l'extérieur l'impose, on va pouvoir de nouveau souffler, se poser, rêvasser, peut-être faire d'autres activités, vous voyez, et qu'on découvre finalement que c'est pas si mal aussi. Mais c'est vrai qu'on assiste, pour reprendre les premières années de la vie, à un mode de relation au tout petit qui très précocement est du côté de l'excitation, la stimulation, et que ces stimulations bien intentionnées, hein, avec l'idée de le faire grandir plus vite, marcher plus vite, parler plus vite, être premier de la classe plus tard, etc. Et ben tout ça aboutit, quand ils sont plus âgés, à la recherche de sources d'excitation extérieure, puisque c'est ça leur univers habituel. Je dirais, j'existe en m'excitant, quoi, ça devient ça. Hein. Si j'ai plus de source d'excitation, j'existe plus. Et c'est des peurs de disparition quasiment. Donc on recherche, on recherche, on recherche. Et on voit des adolescents qui sont un peu dans ce fonctionnement-là, c'est-à-dire quand ils n'ont pas une source d'excitation permanente, c'est un vide qui les angoisse jusqu'au moment où ils découvrent que ça peut être aussi une source d'ouverture vers autre chose, vers d'autres investissements. D'où la bonne idée de leur ouvrir les portes d'activités culturelles, sportives, etc., pour qu'ils découvrent dans la pratique que ça peut aussi leur apporter vraiment des effets tout à fait positifs pour eux. Vous voyez ?
Bien sûr, oui. Là, ça m'évoque plein de mamans qui, en effet, dès tout petit, sont avec tous les hochets, alors que finalement, le bébé, déjà d'être là, c'est un éveil au monde qui est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus.
Quand on ne voit pas des berceaux avec des écrans, hein, où ça commence, où tu pleures, paf, on te met la tablette dès les premiers mois. Hein, donc là, on voit qu'après, il ne faudra pas que ces parents-là s'étonnent d'un usage préférentiel des écrans quand leur enfant aura grandi. Ils ont induit d'une certaine manière, ce n'est pas pour les culpabiliser, parce qu'ils ne pensent pas forcément à ça. Mais ils auront quand même induit un mode de fonctionnement aux écrans qui va avoir quelques suites.
Oui, vous parliez aussi tout à l'heure de l'écran babysitter. Voilà, et ça m'évoque ce que vous disiez aussi, Corinne, où finalement, au début, votre fils a regardé des écrans pour que ça aille plus vite le matin. Voilà, c'est vrai que dans la vie débordée des parents, les parents essayent de trouver des astuces.
On peut comprendre, hein, c'est pas accusateur.
C'est vrai que je reconnais, on l'a fait. Après, c'est vrai que moi, j'en parlais dans mon entourage et on m'a très rapidement dit... Faut arrêter, c'est très mauvais pour son développement. C'est la plus mauvaise télé, c'est le matin, avant l'école ou la maternelle, et du coup, j'ai stoppé. J'ai réussi à avoir cette volonté, cette fermeté de stopper, et ça a fonctionné.
Ben oui, bien sûr, vous avez bien fait. L'enfant, pour se développer, il a besoin de rencontrer des humains avec qui on parle, on partage, hein, et pas seulement des écrans. Donc ça, bien sûr. Mais regardez des scènes de la vie quotidienne, dans le métro, dans un restaurant, etc. Des enfants, y compris tout petits avec leurs parents, comme ils s'agitent et autres, paf, on leur donne le smartphone ou la tablette. Hein, et ils sont tranquilles pendant le temps du repas. Après, il ne faut pas s'étonner... que l'enfant y trouve un refuge, à défaut d'avoir une possibilité de relation avec les adultes. Et c'est quand même ça qu'il préfère.
Oui, ça m'évoque aussi à des situations dans le train, voilà, où beaucoup ont le train, la voiture. Alors, finalement, autrefois, les parents chantaient des chansons, disaient des histoires.
Je sais pas, oui.
Alors, faisaient des coloriages.
Les temps ont changé. Mais on peut utiliser les écrans aussi comme médiation pour avoir des activités partagées. Pourquoi pas? Mais c'est plus à ce moment-là l'enfant seul face à l'écran, c'est l'enfant, l'écran et le parent. Et on parle en même temps, on échange ses impressions, ce qu'on pense, ses émotions. C'est autre chose.
Oui, c'est un outil de lien, d'échange, de communication. Et c'est ça qui
mais
change
oui,
tout.
Mais oui.
Vous nous parliez tout à l'heure, Patrice Huard, des nouveaux parents. Ces nouveaux parents-là aujourd'hui qui sont nés avec tous ces outils numériques. Oui. Est-ce que vous voyez du coup une différence dans leur parentalité, dans la manière dont ils gèrent ces questions-là?
Disons qu'ils sont plus... comme ils sont très familiers de ces usages depuis qu'ils sont tout petits, déjà ils en connaissent mieux et les manipulations, l'aspect technique, les limitations, la relativité des contrôles parentaux et autres, ça ils savent, hein, parce qu'ils ont eux-mêmes contourné quand ils étaient plus jeunes. Donc, on ne leur raconte pas des histoires là-dessus. Donc ça, disons que c'est familier pour eux. Hein. Mais pour le reste, c'est-à-dire pour la quantité de temps passé, pour le type d'usage par leur enfant, etc., comme ils sont eux-mêmes très souvent grands utilisateurs, et comme ils disent, nous on a bien grandi avec ça, vous voyez, ça ne nous a pas empêché de grandir, après tout, pour l'enfant, il n'y a pas plus de problèmes. Hein. Donc on voit quand même des enfants de plus en plus jeunes qui ont maintenant un smartphone. Pendant longtemps, ça a été le lycée, après ça a été le collège, et maintenant on en voit en primaire, hein, de plus en plus, sous prétexte de « quand tu rentreras à la maison, si je ne suis pas là, bah, tu me préviens », etc. Enfin, quelle naïveté si on ne pense pas que l'enfant va aussi l'utiliser pour autre chose. Hein. Voilà, donc ils sont plus à l'aise avec les aspects techniques. C'est un univers qui leur est totalement familier. Donc, ils comprennent pas bien tous les discours des plus anciens qui leur disent attention quand même, etc. Surtout qu'on ne leur a pas tellement adressé ces discours quand eux étaient petits. Et donc, ils ont besoin de réapprendre ou d'apprendre, dans un certain nombre de cas, les vertus d'autres types de relations parents-enfants avec d'autres types de médiation que les médiations numériques. Et là, il y a vraiment retrouver ou trouver les plaisirs dans d'autres situations de partage qu'ils n'ont pas forcément connu eux-mêmes enfants. Donc ça peut être une découverte. Je vois que beaucoup d'équipes là, que je forme qui vont avoir à accompagner des parents sous prétexte d'amener l'enfant vers une bibliothèque ou une médiathèque ou une ludothèque, accompagner des parents qui eux-mêmes vont découvrir, en voyant leur enfant jouer, que ce n'est pas déplaisant de jouer aussi avec lui. Hein, et, parce que leurs parents ne leur avaient pas transmis ça du tout.
Ouais. Alors, oui, Corinne ?
Moi, j'aurais une question. C'est pour le cas des autres parents qui n'ont pas forcément grandi dans toute cette technologie et qui sont perdus. Est-ce qu'il y a des endroits où peut-on trouver justement pour apprendre à apprendre à notre enfant de se protéger sur les réseaux sociaux, à apprendre peut-être au niveau des ordinateurs, peut-être à mieux configurer les choses ou à l'orienter et à l'accompagner? Parce que moi, je fais partie des générations où j'ai pas grandi avec tout ça.
Oui.
J'étais pas une joueuse non plus sur les premiers jeux qui ont existé.
Oui.
Donc, c'est vrai que c'est quelque chose.
Oui.
Quand mon fils me demande de partager un jeu avec lui, je le regarde, je dis oui, mais enfin, moi, ça me plaît pas. Après, je le fais pour lui faire plaisir.
Alors, vous avez raison. Il y a beaucoup de désarroi face à tous ces outils, et ça a été tellement rapide qu'il y a une génération pour laquelle ça a été vraiment très problématique. Comme vous le décrivez. La suivante, la prochaine, ce ne sera plus le cas. Ils vont avoir une familiarité avec tout ça que la précédente n'avait pas. Mais c'est vrai qu'il y a une génération, c'est leurs enfants qui leur ont appris comment marcher un ordinateur, d'une certaine manière. Mais, alors, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, que ce soit des enfants qui enseignent leurs parents et non pas l'inverse. Mais en même temps, moi, ça ne me gêne pas. Moi, je ne joue pas spécialement avec les jeux vidéo. Ça ne me gêne pas de les utiliser pour aider dans les soins. Pourquoi ? Parce que finalement, on va demander à l'adolescent de, non pas de nous apprendre tout, mais par le biais de qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il y trouve, etc. Il va nous parler de et comment je peux faire pour ci, etc. Et il va être même assez fier de pouvoir montrer ses prouesses ou ses capacités aux parents, à condition que le parent ne soit pas vexé de ne pas savoir faire aussi bien et aussi vite que son enfant. Mais ça, ce n'est pas grave en soi. Du moment que le lien peut être maintenu, ça va être ça l'essentiel. Je ne crois pas trop aux vertus de formation des parents pour savoir quels sont les jeux, les bons, les pas bons, etc. Parce qu'on risque de s'éloigner de l'importance de s'en servir comme médiation, avec les limites. Il y a des limites, parce qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie aussi. Il y a du travail scolaire. Vous disiez qu'il réussissait plutôt bien pour gagner ce qu'il espérait. Mais après tout, c'est un moteur comme un autre. Autrefois, les enfants, ils travaillaient bien pour faire plaisir ou parce qu'on leur avait promis je ne sais pas quoi. Vous voyez, ce n'est pas nouveau. Si ça marche, tant mieux. Combien de temps ça marchera, on verra. Mais si ça marche, tant mieux.
Oui, mais par contre, par exemple, pour le cas de mon fils, il arrive à gérer parce que bon, il a des activités où maintenant il y va en autonomie. Donc ça, il sait bien gérer.
Bon.
Mais par contre, il gère pas ses devoirs. On a un mal fou à ce qu'il se concentre, à ce qu'il fasse ses devoirs. Ça, c'est redoutable.
Mais ça, l'école a lui parler de ça. L'école aussi va lui parler de ça, j'imagine, non ? Les enseignants vont bien lui dire que les devoirs ne sont pas terriblement bien faits.
Il est à l'étude. En fait, je pense qu'il a quand même quelques capacités. Il va à l'étude, mais il ne va pas travailler, quoi.
Oui.
Je pense qu'il va plus s'amuser avec ses
amis. Comment réussit-il, alors ?
En fait, nous, comme on n'y arrive pas, on a pris des aides scolaires.
Ouais.
Pour réexpliquer des choses, etc. Et ça fonctionne.
Voilà.
Mais par contre, moi, je voudrais qu'il apprenne aussi à travailler en autonomie, un peu ses devoirs.
Attendez, 11 ans, c'est très tôt. Qu'il y ait des tiers qui interviennent, là encore, on voit bien qu'on écoute d'autres que ses parents, beaucoup plus que ses parents. C'est bien connu, ces adolescents ou enfants qui sont insupportables à la maison, n'obéissent pas, veulent rien faire, etc., etc. Ils vont chez des parents d'amis et au retour du week-end, les parents d'amis disent « Il est formidable, votre enfant. Il fait la vaisselle, il est serviable, il est poli. »
C'est ce qu'on nous a dit aussi. On nous a dit qu'on avait quand même réussi cette chose-là. Je pense qu'on lui a quand même inculqué une certaine éducation à être poli et respectueux.
Voilà.
Il sait très bien le faire vis-à-vis des autres, mais avec ses propres parents et dans la maison,
il sait très bien faire aussi.
C'est une catastrophe.
Mais il sait très bien faire aussi.
Inversement, oui.
En tout cas, lorsque des parents sont très en difficulté ou voient vraiment leur enfant dans ce trop que vous nous avez décrit, quels sont les lieux de soins? Où est-ce qu'ils peuvent consulter?
Alors, c'est pas forcément des lieux de soins, parce qu'il ne s'agit pas d'une maladie. Après tout, il s'agit d'être aidé à réfléchir avec un tiers extérieur, qu'en tant que parent, quand on est débordé, à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rectifier un peu le tir. Donc c'est plutôt une aide parentale, je pense, aux écoles des parents et éducateurs. Hein, il y en a maintenant à peu près dans chaque ville, où ils ont des services téléphoniques ou en direct, du style inter-service parents, des cafés des parents, etc. Des lieux comme ça d'échange entre parents avec des professionnels pour discuter, non pas pour avoir la solution, la recette miracle, mais en échangeant les expériences, voir comment d'autres s'y sont pris, comment ça a pu marcher, et avec un tiers professionnel qui peut guider un peu ces discussions. Donc ça peut être tout à fait fructueux. Hein. Il y a pas, on peut pas imaginer un livre avec s'il regarde plus de X heures, voilà ce qu'il faut faire, si c'est telle émission, voilà ce qu'il faut faire. Non, mais d'être amené à déjà s'apercevoir qu'on n'est pas seul, en tant que parent, à éprouver ces difficultés, ça c'est important, ça soulage. Hein. Sinon, on se pense qu'il n'y a que nous qui ne réussissons pas, les autres, ça a l'air de marcher très bien. Ce n'est pas si vrai que ça, donc ça c'est déjà rassurant. Et puis de voir comment les autres s'y sont pris, ce qu'ils ont essayé, qui n'a pas marché, qui a marché.
Est-ce que parfois, voilà, aussi ce refuge dans les écrans peut être le symptôme ou le signe de quelque chose, d'un mal-être?
Un petit pourcentage d'enfants ou d'adolescents, oui, mais c'est vraiment un très petit pourcentage pour lesquels ça va être un refuge, une zone de repli stratégique, mais c'est vraiment... Alors là, ça va être facile à évaluer, ça va être quels sont les autres centres d'intérêt, quelles sont les autres circonstances de la vie qui sont investies, etc. Si c'est tout comme ça, il n'y a que ça, là, on aura un problème. Et ce sera le signe effectivement d'un mal-être. Hein.
Oui, en tout cas, vous parliez voilà, de ces lieux pour réfléchir, puis parfois aussi quelques consultations, j'imagine, avec un psychologue ou un pédopsychiatre pour aider à réfléchir sans forcément être dans la pathologie.
Mais pas forcément pour l'enfant.
Pour le parent, oui.
Pour les parents, non pas parce qu'ils sont malades ou qu'ils ne savent pas faire, mais parce que, comme tout être humain, on a besoin aussi de conseils. Et ce qui se transmettait comme conseil dans l'éducation des enfants traditionnellement jusqu'à très peu de temps, de génération en génération, bien souvent on répétait un peu ce que nos parents avaient fait ou nos grands-parents, aujourd'hui ça ne peut plus marcher parce que ce n'était pas du tout les mêmes modes de vie. Et donc ça crée un grand désarroi. Donc d'où l'intérêt d'avoir des temps, des lieux et des circonstances dans lesquelles on peut échanger avec d'autres pour réajuster un petit peu nos positions parentales.
En tout cas, comme vous nous l'avez bien dit, Patrice Huard, voilà, interdire les écrans à tout prix, c'est vraisemblablement pas la bonne solution. Voilà, c'est vraiment comment
On veut qu'ils les utilisent davantage.
Oui, tout dépend de l'objectif.
Ah oui, c'est comme les parents qui veulent que leur enfant lise, parce qu'il ne lit plus du tout. Il suffit de mettre dans un rayonnage un peu en haut, dans une bibliothèque, interdit aux enfants. Hein. Ça va intéresser beaucoup plus que ce qui est offert sur la table basse.
Hein. Bien sûr. En tout cas, vous avez énormément souligné l'importance du rôle du parent, de l'accompagnement, d'anticiper les questions qui peuvent arriver et qui vont arriver. Mmh. Et voilà, que le parent s'intéresse et se questionne sur ce qui intéresse son enfant question des écrans.
Le questionne là-dessus pour faire apparaître ce qui intéresse son enfant et du coup découvrir peut-être des facettes qu'il ignorait.
Et du coup vraiment d'utiliser tous ces outils numériques comme des outils de la relation de communication.
Tout à fait.
Dans la relation avec les enfants.
Tout à fait.
Je recommande souvent des lectures à mes patients. Est-ce que vous auriez quelque chose à recommander ou un conseil à donner aux parents qui nous écoutent?
Pour les lectures, il y en a beaucoup sur ce thème-là. On avait fait un livre collectif qui s'appelle « Faut-il avoir peur des écrans ?» Et puis, moi, je pense que le remède, c'est de retrouver le plaisir de jouer, de partager ensemble, ou d'aller faire connaissance. C'est une des ordonnances principales que je fais aux parents, parce que bien souvent, ils ne connaissent plus leur enfant. Ils le voient dans ses usages, des écrans ou autres, mais ils ne le connaissent plus. Et inversement, d'ailleurs, les enfants voient leurs parents revenir du travail. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que c'est que leur travail? Ils disent « Bah oui, il est dans un bureau. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a dans le bureau ?» Je ne sais pas. Donc, déjà, de partager un peu plus ça. Et je m'aperçois, quand je questionne des parents dans des réunions de parents d'élèves, etc., combien de fois ça vous est arrivé de passer une journée ou un week-end seul à seul avec l'un de vos enfants, juste pour faire connaissance, sans autre objectif, si possible, dans les circonstances qui vous plaisent. Ou Combien de fois ça vous est arrivé avec vos propres parents? Ben, très souvent, ça n'est pas arrivé. Et donc, dans une vie, c'est pas grand-chose d'avoir un week-end avec un enfant pour essayer de faire connaissance. Ça, on ne connaîtra peut-être rien du tout, mais on va essayer. C'est une ouverture qu'on propose.
Oui, et puis l'intention, là, vous soulignez l'intention de rencontrer l'autre.
Et on part du principe que son enfant, quand il grandit, il y a des pans entiers de son existence qu'on ignore et qui peuvent être tout à fait intéressants à partager.
Merci beaucoup d'être venu témoigner et partager de vos difficultés avec votre fils. Merci beaucoup Patrice Huer. Je rappelle que vous êtes psychiatre, psychanalyste et spécialiste des adolescents. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.